Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Vercingétorix » de Jean-Louis Bruneau est une biographie historique publiée chez Gallimard qui s'intéresse à l'une des figures les plus célèbres de l'Antiquité gauloise. L'ouvrage ne se contente pas de raconter la révolte contre Rome et l'épisode d'Alésia, il cherche à reconstruire le personnage à partir d'une lecture critique de sources antiques, surtout César, et des données archéologiques disponibles. Bruneau, spécialiste du monde gaulois, adopte une démarche savante qui replace Vercingétorix dans la société, la politique et la culture de la Gaule du 1er siècle avant notre ère. Le livre vise ainsi à corriger les images simplifiées héritées du récit romain et des représentations nationales modernes, en proposant une vision plus nuancée du chef Arverne et de son époque. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une biographie construite contre le récit de César. Le cœur du livre consiste à relire la figure de Vercingétorix à travers un dossier documentaire très mince, dominé par la guerre des Gaules. Bruneau part du principe que le récit de César, bien que précieux, est aussi orienté par des objectifs politiques et rhétoriques. L'enjeu n'est donc pas de rejeter les sources antiques, mais de les confronter, de les croiser et de repérer leur silence. Cette méthode donne au portrait de Vercingétorix une base plus critique que les biographies traditionnelles, souvent trop dépendantes du vainqueur romain. Le livre montre ainsi comment l'historien peut reconstruire un personnage presque effacé par les textes. Sans transformer les hypothèses en certitudes, cette prudence méthodologique est essentielle, elle explique le ton à la fois érudit et révisant de l'ouvrage, qui tente moins de raconter une légende que d'évaluer ce qu'il est réellement possible d'affirmer sur un chef gaulois du 1er siècle avant notre ère. Deuxièmement, replacer Vercingétorix dans une Gaule plus complexe que le cliché barbare, Bruneau ne traite pas Vercingétorix comme un héros isolé, mais comme le produit d'une civilisation gauloise structurée. L'un des apports majeurs du livre est de présenter la Gaule comme un monde politique, social et culturel beaucoup plus élaboré que l'image classique de peuple dispersé et primitif. L'auteur insiste sur les élites aristocratiques, les relations entre cités, les assemblées, les rivalités internes et les formes d'organisation qui rendent possible l'émergence d'un chef suprême. Cette perspective change la signification de la révolte de 52 avant notre ère, elle n'apparaît plus seulement comme une explosion de résistance, mais comme un épisode inscrit dans un système politique déjà dense. En redonnant de l'épaisseur aux institutions gauloises, Bruneau éclaire aussi les conditions de l'unité temporaire autour de Vercingétorix. Le livre aide ainsi à comprendre que l'enjeu n'est pas seulement militaire, mais aussi politique, il s'agit de saisir comment une société gauloise a pu produire un commandement, une stratégie et une vision d'ensemble face à Rome. Troisièmement, les druides, les élites et c'est la formation politique du chef Arverne. L'ouvrage accorde une place importante aux structures intellectuelles et sociales de la Gaule, en particulier au rôle des druides et à l'éducation aristocratique. Bruneau présente Vercingétorix comme un jeune noble formé dans un environnement où l'apprentissage de la guerre, du droit coutumier et de la politique est fondamental. Cette approche permet de rompre avec l'idée d'un chef surgissant uniquement par instinct ou par héroïsme personnel. Sa légitimité repose au contraire sur une formation, des réseaux et une appartenance de classe. Le livre s'intéresse aussi à la manière dont les druides participent à l'encadrement des savoirs et à la cohésion symbolique du monde gaulois. En reliant l'itinéraire de Vercingétorix à cet arrière-plan culturel, Bruneau explique mieux la construction d'une autorité capable de fédérer des cités rivales. Le personnage devient alors intelligible non comme une exception presque mythique, mais comme un représentant particulièrement efficace d'une aristocratie gauloise dont les codes et les ambitions sont précisément analysés. Quatrièmement, Bibracte, les rivalités gauloises et la fragilité de l'unité. Un autre axe central du livre est l'analyse du congrès de Bibracte et des tensions entre chefs gaulois. Bruneau souligne que l'ascension de Vercingétorix ne fut pas seulement le résultat de ses qualités personnelles, mais aussi d'un jeu complexe de concurrence entre élites. La réunion de Bibracte apparaît comme un moment décisif où se nouent alliances, jalousies et calculs politiques. Cette lecture est importante car elle explique en partie pourquoi l'unité gauloise, même spectaculaire, demeure fragile. Le livre insiste sur le fait que la défaite finale ne peut être comprise sans tenir compte de ses divisions internes, des fidélités changeantes et des stratégies locales. Vercingétorix n'est pas seulement confronté à César, il doit aussi composer avec des partenaires ambivalents, parfois rivaux, parfois défaillants. En mettant au premier plan la désunion gauloise, Bruneau donne une clé de lecture politique de la guerre, moins héroïque que structurale. Le destin du chef Arverne dépend autant de la qualité de son commandement que de la difficulté à transformer une coalition provisoire en véritable front commun. En dernier lieu, une remise en cause des images nationales et des stéréotypes historiques. Le livre se distingue aussi par son refus des figures figées héritées du XIXe siècle. Bruno s'attaque aux représentations scolaires, monumentales ou patriotiques qui ont transformé Vercingétorix en symbole national simplifié. Son travail consiste à soustraire le personnage à deux réductions opposées, d'un côté le barbare vaincu, de l'autre le héros national rétrospectif. En s'appuyant sur les découvertes archéologiques et sur une lecture critique des textes, il propose une image plus sobre, mais aussi plus crédible, du chef Arverne. Cette démarche intéresse autant l'histoire que l'historiographie, car elle montre comment un personnage antique peut devenir un objet de mémoire moderne. L'ouvrage demande donc au lecteur de distinguer le Vercingétorix historique du Vercingétorix fabriqué par la postérité. C'est ce travail de désencombrement qui fait sa singularité. Il ne cherche pas à réenchanter le mythe, mais à rendre visible ce que l'histoire permet vraiment d'atteindre à propos d'un personnage devenu emblématique. En conclusion, Vercingétorix de Jean-Louis Bruno s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite aller au-delà de la légende scolaire et des images patriotiques pour comprendre un personnage antique à partir d'un travail historique exigeant. Il conviendra particulièrement à ceux qui s'intéressent à la Gaule, à Jules César, aux druides, à l'archéologie, plus largement à la façon dont on écrit l'histoire. Quand les sources sont rares et orientées, son principal intérêt pratique est d'apprendre à lire les textes antiques avec distance critique, sans perdre de vue ce qu'ils peuvent malgré tout apporter. Son intérêt intellectuel est de restituer la complexité d'une société gauloise souvent caricaturée, en montrant que Vercingétorix appartient à un monde politique déjà structuré. Ce livre se distingue des biographies plus classiques parce qu'il combine érudition, prudence méthodologique et volonté de déconstruire les clichés modernes. Il ne cherche ni l'épopée ni la célébration, mais une compréhension plus juste d'un chef historique et du contexte qui a rendu son action possible. C'est ce positionnement critique qui en fait une lecture solide pour un public cultivé. Si vous souhaitez soutenir Jean-Louis Bruno, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.